suis arrivé en Indonésie, mai 98, chute du président Suharto, des blindés dans tous les coins de rue. C'était vraiment pas le bon moment pour sauver les singes en Indonésie. J'ai passé quasiment une année à essayer de décrocher des autorisations que je n'arrivais pas à avoir. Et voilà, et c'est comme ça qu'en septembre 99, j'obtiens le premier protocole d'accord avec les autorités indonésiennes pour créer Kalawet, le premier programme de sauvegarde des gibbons en Indonésie.
Ok, pagi semuanya. Oke, kita coba lagi, lebih semangat lagi. Pagi semuanya.
Pagi.
Lumayan. Oke, kemarin aku ada keliling sama Pak Ferry, sama Andre untuk lihat-lihat satwa yang calon pelepasan yang akan dikirim ke KSI. Dari semua calon kita belum putuskan kan, tapi baru observasi. Sekali lagi saya menunggu juga masukan-masukan dari teman-teman tentang satwa-satwa yang mungkin ada masalah atau apa. Oke, terima kasih banyak, selamat bekerja.
Hari itu ada patroli.
Ça c'est les gibbons de Klaus. C'est ces gibbons là qui sont originaires de Mentawai. C'est un des gibbons les plus menacés en Indonésie.
Ça c'est le chant de la femelle. Le mâle s'est tué, il monte dans les aigus. Là le mâle ne chante pas. Elle va finir. Il y a normalement une ou deux secondes de silence. Normalement le mâle doit reprendre.
Ça c'est une famille de 4 siamang.
Où ils vont être nourris que des fruits et des feuilles de la forêt environnante. Et après 6 mois dans une cage d'acclimatation comme ça, ils vont être relâchés.
C'est pas un chant territorial, c'est un cri d'alerte d'en haut. Le cri d'alerte est différent si le danger vient d'en haut ou si le danger vient d'en bas.
Je suis parti jeune, donc j'avais pas vraiment d'attache en France à part mes parents. À 18 ans, donc. Et j'ai tout construit ici, et c'est pour ça que ma maison c'est l'Indonésie. Et maintenant j'ai passé plus de temps en Indonésie qu'en France, parce que ça fait 19 ans, je suis resté 18 ans en France. Et voilà, donc les gens s'imaginent que j'étais seul, mais j'ai jamais été seul. J'avais rien, j'avais simplement une pirogue à moteur qui me permettait de descendre là où il y avait un dispensaire pour acheter les nécessaires pour les 4 gibbons que je pouvais avoir. Mais rien que ça, ça sauvait des gens. Parce que les gens montaient dans la pirogue, descendaient avec nos dispensaires. Enfin, toutes ces anecdotes, ça m'a nourri, ça m'a construit, ça m'a fait vite grandir, vite prendre dans le sens des responsabilités aussi. Et puis ça, j'ai commencé tout petit, j'avais 2 gibbons, c'est moi qui m'en occupais tout seul. Enfin voilà, j'avais un gars qui est toujours avec moi aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais déjà dans la forêt, avec les gibbons sauvages autour, pour moi c'était le rêve quoi. C'était juste génial, c'était juste... Et très vite, quand j'ai commencé à recevoir des gibbons, Kalawet a grandi. J'ai construit le premier centre de Kalawet à Bornéo, dans les montagnes centrales, à 3 jours de la première ligne téléphonique, donc c'était vraiment très 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 loin, mais c'était mon rêve de gamin avec les Dayaks qui vivent dans des huttes en écorce. Je suis monté jusqu'à 33 gibbons sur ce site-là, qu'on a dû évacuer ensuite en hélicoptère. Et à chaque fois qu'il y avait un gibbon qui se faisait mordre, j'étais obligé d'appeler des missionnaires qui étaient en hydravion pour venir nous apporter. Enfin, c'était logistique, c'était juste l'enfer. On avait 3 rapides à passer avec les pirogues. À chaque fois qu'on faisait monter du grillage, tout ça, il y avait une pirogue qui se retournait, donc le grillage qui était dans les rapides, il fallait le récupérer. Ça m'arrivait une fois avec un macaque dans une cage, à se retourner, le macaque dans la cage, on l'a récupéré, mais il a eu la peur de sa vie. Enfin voilà, on arrivait sur le camp, on était tout juste heureux, simplement le fait d'arriver, quoi. L'Indonésie, c'est un peu une illusion, quoi. On a tout et son contraire en Indonésie, à tout point de vue. Et moi, je suis tombé amoureux des Dayaks de Bornéo, je m'y sens bien. amoureux vraiment, puisque mon épouse est d'Ayac, donc c'est vraiment... Mais voilà, c'est trouvé comme ça, c'est un tout. C'est Ferry qui a trouvé le site pour construire les infrastructures. La première fois, il m'emmène ici. J'étais, ouais, est-ce que c'est un bon site pour construire les volières et tout? J'étais franchement pas chaud. J'étais persuadé que la forêt était vide. J'étais persuadé, parce que c'est pas du tout une forêt dont j'ai l'habitude, une forêt qui est relativement sèche, en fait, comparée à celle de Bornéo. Et puis, je passe une nuit, et le soir, après 6 heures, le générateur était allumé, et je pars sur la colline pour chercher du réseau. Et en face de moi, un tapir. Sur le chemin, je me suis couché par terre, j'étais au téléphone avec ma femme. Il y a un tapir devant moi. Et là, je suis revenu super excité. Quelques semaines plus tard, le vent s'est arrêté, les gibbons commençaient à se chanter. Ça a été une super surprise, quoi. Les villageois avaient fait une coopérative pour prendre le bois. C'est pour ça qu'ils avaient fait une piste, en fait. Ils avaient ouvert un accès. Quand on ouvre un accès, c'est ce qui permet, dans le cadastre aussi, de changer le statut des terrains, et que ça devient un terrain pour les villageois, pour leur business. Coup de bol, ils ont fait banqueroute, donc ils n'ont pas pu exploiter le bois. Et ils ont proposé de vendre les terrains Calao. Et 90 hectares, je dis à Ferry, jamais l'argent, c'est 100 000 euros... Où veux-tu qu'on trouve 100 000 euros, quoi? J'ai pris de nouveau, fait. Puis, je suis rentré à Bornéo, puis j'ai réfléchi. J'ai fait une vidéo, appel aux dons. On a récolté les 100 000 euros en 3 semaines. Calao, mais c'est la vocalise en vol. Là, il vole. Là, il vole. Ça, c'est certain. Tout au bout là-bas, de l'autre côté de la colline, il y a une réserve forestière de plus de 20 000 hectares. Mais si on arrive à acheter les 50 hectares qui sont encore à la vente là, on aurait un corridor encore plus large. Là, ça serait de la très belle forêt connectée à la réserve forestière. Donc, on a une caméra trappe là-bas qui est active, on va aller récupérer la carte. Et ben, sur la caméra trappe, on n'a jamais eu de tigre, hein, je t'ai dit, hein, sur les caméras trappes. On a eu une empreinte dans la boue. Et on a aussi des adjacs ici. Et c'est le canidé de Sumatra, le loup de Sumatra. Et on a eu un cliché sur une caméra trappe. Et ça, c'est rare. Donc ça aussi, c'est une grande satisfaction. On peut prouver qu'on a des adjacs.
La plupart du temps, quand ils arrivent chez les gens comme cette femelle, ils sont sales, ils ont des parasites. Donc la première chose à faire, c'est les nettoyer. C'est rare quand même de recevoir des gibbons aussi sales. C'est vraiment à cause de la malnutrition que ses poils étaient plus huilés. Donc du coup, toutes les cochonneries restent accrochées.
Ababa.
Adanama.
Blomba.
Soucis avec les hépatites, avec l'herpès simplex, qui est le bouton de fièvre chez l'homme. Et il suffit qu'une personne qui a un bouton de fièvre donne une banane, mange une banane et donne le reste au gibbon. Le gibbon attrape l'herpès simplex et en période de stress, il meurt en 4 jours. Ça lui crée une encéphalite. On a par exemple 30% des gibbons à Calaouette qui sont infectés par l'hépatite B, qui ne pourront jamais être lâchés. Mais on tient quand même à faire des couples pour qu'ils aient une vie sociale. Je crois que c'est 33% de la population indonésienne humaine qui est positive à l'hépatite B, parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin, c'est trop cher. Donc du coup, quand des animaux comme les gibbons sont détenus et que le gibbon mord quelqu'un, il va être contaminé par l'hépatite B. Et comme c'est une maladie qu'on ne trouve pas à l'état sauvage, c'est important pour nous de ne surtout pas relâcher ces animaux-là, puisqu'ils risqueraient de contaminer les sauvages. C'est assez surprenant de recevoir une femelle aussi âgée, puisque la plupart du temps on reçoit des animaux qui n'ont pas 10 ans. En fait, ils meurent à la maturité sexuelle chez les gens vers l'âge de 7 ans. Ils ne supportent plus la captivité dans des petites cages ou attachés à un corps. C'est rare.
Le porc épic.
Bien qu'on ait eu le porc.
Bambou d'agne. Et il semblerait qu'il y ait cette nuit des porcs épics qui ont gratté les racines des bambous. Et il y a une odeur bien particulière. C'est acidulé, un peu citronné.
Obtenir la nationalité indonésienne, c'est normalement très 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 compliqué, voire impossible. Et moi, c'est en jouant des médias. J'avais une émission sur la télévision indonésienne, première chaîne info nationale, et j'ai été invité dans un gros talk show, un peu le show Oprah Winfrey version indonésienne. Et l'animateur me pose la question, est-ce que tu veux devenir indonésien? Est-ce que tu veux la nationalité indonésienne? Et moi, j'ai répondu par une boutade en disant que oui, évidemment, mais que j'avais appris une chose en vivant en Indonésie, c'est que pour avoir la nationalité indonésienne, il fallait être footballeur. Parce qu'à l'époque, il y avait eu une grosse polémique des Portugais, des Espagnols qui étaient rentrés dans l'équipe nationale indonésienne et qui avaient eu en 15 jours la nationalité indonésienne pour jouer au foot. Et ça a fait un peu le buzz, ça a fait rigoler. Et deux jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une dame de Jakarta qui m'a dit « Voilà, je me suis occupé de la nationalité indonésienne des footballeurs, je m'occupe de vous. » Et 6 mois plus tard, j'avais la nationalité indonésienne. Donc voilà, c'est un peu, ça représente aussi un peu l'esprit indonésien. C'est-à-dire que c'est toujours par des chemins détournés qu'on arrive à ce qu'on veut. Et le plus drôle, c'est que cette dame qui s'était occupée de la nationalité indonésienne donc a obtenu ma nationalité. Et l'équipe de foot m'a envoyé un maillot de l'équipe nationale. J'ai obtenu la nationalité indonésienne en 2012. Et c'était l'unique moyen d'acheter des terrains. Sur le flanc de la montagne là, tu as une végétation qui est complètement différente de ce qu'on a dans les vallées, où c'est beaucoup plus humide. Et en fait, tous les flancs de montagne, c'est les endroits de passage. Mais là où ils se nourrissent, c'est principalement... Les gibbons, ils dorment en bas, ils se nourrissent, ils montent pour chanter, ensuite ils redescendent. Ils ont des arbres de couchage, parce qu'en haut, il y a trop de vent. C'est pas confortable. Tous les jours, il y a des patrouilles équestres pour marquer notre présence, lutter contre le braconnage et d'éventuelles coupes illégales. Ça fonctionne bien et c'est ce que je fais dans tous les sites de Calaouette. Un cheval, il passe de partout. Une moto ou tout ça, ça passe pas forcément de partout. C'est aussi, de mon point de vue, aussi une sécurité. Quand les gars ont des soucis, le cheval, il rentre. Et une moto, elle rentre pas toute seule. On a des patrouilles équestres, aériennes, en drone et en paramoteur. Paramoteur, c'est plus à bord néo-utile, site qui ne prête pas beaucoup, donc on fait beaucoup de drones. Et j'aide les autorités avec des survols pour détecter justement des coupes ou des accès. Le principal souci avant de couper, c'est de faire des accès, évidemment, pour extraire le bois. Donc c'est ce que je détecte en premier. Puis je fais un rapport aux autorités, envoyé aux médias aussi. Et ça fonctionne plutôt bien. L'huile de palme du RALP, c'est un label, c'est RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Sur le papier, partant du principe que c'est bien, c'est-à-dire que tout est fait pour protéger un maximum la biodiversité. Je donne quelques exemples. Interdiction de faire des plantations dans des zones de forêt primaire, ce qui semble super. À Bornéo, la forêt primaire, primaire, jamais touchée par l'homme, elle se trouve où? Simplement dans les montagnes centrales de Bornéo. Ils feront jamais de palmiers là-bas. On ne peut pas faire d'exploitation sur les pentes de montagne et dès qu'il y a une altitude de plus de 500 mètres, le rendement des palmiers diminue. Tout le reste, 90% de la forêt à Bornéo avait été attribuée par le président Suharto aux compagnies forestières. On n'a que de la forêt secondaire. Ensuite, la plus mauvaise des compagnies arrivera toujours à écouler son huile de palme. Donc on veut nous berner, nous leurrer avec un soi-disant label qui ne ralentit en rien la déforestation sur place, puisqu'une compagnie qui ne pourra pas vendre à Monsieur X parce qu'il demande de l'huile de palme labellisée, pourra le vendre à Monsieur Y parce que lui s'en fout. Sinarmas, qui est la plus mauvaise des compagnies d'huile de palme en Indonésie. Plus mauvaise. Elle a été boycottée par la RSPO, boycottée par Unilever, qui est le premier demandeur d'huile de palme sur la planète pour tous ses produits. Comment se porte Sinarmas? Très très bien. Parce que derrière, il y a la Chine et l'Inde. Et du temps des coupes forestières, il y avait 10% des concessions qui devaient être protégées. Donc il restait quelque chose, il restait des poches. Quand c'est devenu des permis pour l'huile de palme, ça a disparu. Il faut bien comprendre que dès qu'on a converti une forêt en plantation de palmiers à huile, il ne reste plus rien, c'est un désert, et c'est surtout irréversible. Si une compagnie forestière, aujourd'hui, obtient une concession, c'est une excellente nouvelle. Parce que même si elle exploite pendant 30 ans, après 30 ans d'exploitation, il va rester quelque chose. Dans une monoculture de palmiers, il ne reste plus rien. Par exemple, le sud-ouest de Bornéo, c'est grand comme la région PACA, et il n'y a pas un seul arbre. C'est plein de compagnies et des consortiums qui ont tout dévasté. On peut voler pendant une heure et demie, et dessous, c'est un océan de palmiers à perte de vue. Donc, perte de la biodiversité, certes, mais perte aussi de la qualité de vie des gens qui vivent dans ces régions-là, puisque les eaux sont souillées, l'érosion, sans même parler des pesticides et des engrais utilisés dans les plantations. C'est des départements, des régions entières, avec simplement monoculture de palmiers. Il faut savoir que l'huile de palme durable oblige les compagnies à protéger des hotspots de leurs concessions. Si vous avez fait votre compagnie dans les années 90 ou 2000, vous pouvez quand même devenir membre de la RSPO, même si vous avez tout coupé sur votre compagnie. Mais il faut quand même que dans votre plantation, par exemple, vous avez 100 hectares, où vos palmiers, ben vous ne les récoltez pas. Vous laissez pousser des fougères, tout ça, et puis vous pouvez dire que c'est votre zone de conservation. Et ces compagnies-là sont labellisées. Le label ne sauve rien. Toutes les grandes ONG sont dedans, dans la RSPO. C'est un leurre. On fait croire qu'il y a une huile de palme durable. Le consommateur est rassuré, mais c'est faux. C'est juste faux. C'est un leurre. Et dire ça en Indonésie, vous n'avez aucun souci, alors que vous êtes face à toutes les concessions. Dire ça en Europe, vous recevez des dizaines, voire des centaines de mails. Et moi, je réponds simplement, je vis à Bornéo, venez avec moi, je vous montre. Je vous montre les tourbières qui sont dévastées alors qu'il y a un moratoire. Ah mais non, c'est pas possible, Chani, il y a un moratoire. Ben si. Ben si. Donc ça, c'est une partie de l'équipe qui rentre, il est 3h30, 4h. Ouais, on est plusieurs équipes à plusieurs endroits. Aujourd'hui, on est à 74 employés à plein temps. Sur l'ensemble de Calais. En 2015, on a eu les plus grands incendies de ces dernières années.
principalement à Bornéo lors des saisons sèches. C'est ces zones de tourbière qui sont brûlées intentionnellement pour les convertir le plus vite possible en plantation de palmiers à huile. On ne voit pas 50 mètres. On porte des masques du matin jusqu'au soir. On rentre chez soi, on a les yeux qui pleurent. À Padang, je comprends que les gens soient dans l'inconfort. Mais à côté de Palangkaraya ou des villes de Bornéo où les gens meurent, les asthmatiques, ils y passent. C'est aussi grave que ça. On ne parle même plus des gibbons de la forêt. On parle d'un problème de santé publique qui est surpassé par l'intérêt économique de l'industrie de l'huile de palme.
Penser que demain il y aura une prise de conscience de tout le monde et qu'on arrivera à sauver la forêt comme ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui on n'a plus de temps, la forêt on est en train de la perdre, il faut essayer de sauver tout ce qu'on peut le plus vite possible. Et le meilleur moyen de le faire, à mon sens, c'est de l'acheter. C'est concret, c'est réel, c'est efficace. Ici on a fait disparaître, et écoutez, il n'y a plus une seule tronçonneuse. Une des différences avec beaucoup de grandes ONG et aussi quelque chose qu'on a en commun avec toutes ces petites ONG sur la planète entière qui travaillent aussi bien à Aliette Jamar avec les chimpanzés en Afrique, Hélène Colombe au Pérou avec les singes laineux, c'est que nous on s'engage sur la durée. Avec les grandes ONG, un projet, un programme, c'est 5 ans. Et après, fini, on passe à autre chose. Nous, on a un gibbon qui va vivre 30 ans, 40 ans. Moi, je mène Calaouette, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Et il ne faut surtout pas savoir.
Arte. Radio.
La conservation, sauver pour 20 ans, pour que la 21e année, ça soit détruit, ça veut rien dire.
Point. Comme.
On n'a plus besoin des grands discours, on n'a plus besoin de ces grandes études. C'est de l'engagement. Et c'est ça ce dont on manque.